Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 19 janvier 2026. On se retrouve avec un Bitcoin à 92 600, un Ether à 3002, en recul de 1,5 et 2% sur les dernières 24 heures, XRP moins 4%. Et on a une réouverture globalement multimarché qui s'annonce dans le rouge ce lundi, avec jusqu'à moins 7% pour Zcash. Et on a comme ça des petites contre-performances, en tout cas pour le court terme, qui pourraient s'expliquer très largement par ce qui est en train de se mettre en place, notamment entre l'Europe et les États-Unis vis-à-vis des menaces de Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur cet enjeu latent vis-à-vis du Groenland. Et donc le bras de fer est engagé et on a une descente même jusqu'à moins 26% à la 50e place pour Story. Et on clôture le top 50-60 avec Render, Arbitrum, Algorand, de Filecoin qui sont toujours entre 1,15 et 1,20 milliards de capitalisation. Au rayon des infos économiques, donc pour cette semaine, pas de gros impact. Si ce n'est, on aura vendredi donc le PMI manufacturier, notamment du côté des États-Unis, et le PCE ce jeudi. On aura également un discours de Donald Trump mercredi. Donc, est-ce qu'il va faire de grandes annonces vis-à-vis justement des tarifs? Et mardi, toujours donc demain, on aura, même si ce n'est pas marqué ici dans le calendrier économique, la mise en place donc des derniers droits de douane. Donc là, on a une menace à court terme qui est plutôt dirigée vers le début février, et c'est vrai que pour l'instant, eh bien, on continue de voir les métaux précieux s'apprécier, et c'est quelque chose qui continue de tendre finalement les flux, les capitaux, et où on se demande avec des indices comme le S&P 500 et le Nasdaq qui étaient sur des ATH, voire même le CAC 40, qui se ment comme d'habitude, et qui sera le premier à tirer sur cette gâchette et à nous faire un peu un micro-choc qu'on aura soit maintenant au printemps maximum 2026, ou peut-être d'ici cet automne s'il arrive à calmer le jeu tout simplement vis-à-vis de ses prétentions face au Groenland, mais pas que, puisque les États-Unis ont ouvert différents fronts aujourd'hui, et notamment vis-à-vis de l'Amérique latine. Le partenaire du jour, il s'agit de NordVPN, donc vous avez une offre substantielle en commentaire et description, jusqu'à plus de 75% de réduction, 4 mois offerts, et vous avez le satisfait ou remboursé pendant 30 jours. L'application vous permet de vous connecter, que ça soit sur votre téléphone ou votre ordinateur, jusqu'à 10 appareils avec un seul compte, et d'utiliser donc une adresse IP dans n'importe quel pays, le tout en bénéficiant en temps réel de la protection anti-menace pro. Donc ça va scanner et vos fichiers et les sites que vous consultez, et ça peut vous donner bon nombre d'indications en amont que vous êtes sur un site vérolé. Donc à ce jour, ça en fait une suite en comprenant donc la gestion de mots de passe avec le NordPass, le NordLocker pour vos fichiers dans le cloud, et la sécurité comme ça en temps réel, un all-in-one qui vous suivra partout temps, et vous avez donc le lien en commentaire et description pour nous soutenir, c'est super important, et d'autant plus dans un environnement où on a des fuites de données en permanence aujourd'hui, et notamment en France, et où il est important petit à petit de se protéger, voire de faire le boulot en sens inverse pour petit à petit récupérer ses droits sur sa propre vie privée. On passe aux informations. Donc on était resté fin de semaine dernière avec Benjamin Cohen qui nous mettait le chart donc du S&P 500 face au gold. On est arrivé sur un support, et comme il le disait ici, vu qu'on remonte jusqu'en 2010 et des brouettes, donc 2010 à 2015 pour la première poussée qu'on avait eue du S&P face au gold. Aujourd'hui, si le gold vient à surperformer durablement le marché action américain, alors que lui-même était plutôt haussier ces temps-ci, eh bien, ça serait un grand changement de paradigme, mais peut-être que le gold pourrait encore s'apprécier énormément. Donc aujourd'hui, on marche sur des œufs vis-à-vis de ça. Quand on regarde la trend du gold, voilà, c'était mis en avant par Loris Dalio juste après. On a eu des performances qui, depuis 2000, ont été quasi annuellement toujours dans le vert. Alors, parfois, ça avance de quasiment rien, 1%, 2%, et de temps en temps, on a des 35%, voire, comme on a eu en 2025, 46,5%. Donc, c'est vrai que par le passé, notamment du côté de la cryptosphère, le gold a été beaucoup moqué, notamment la comparaison vis-à-vis du Bitcoin, qui, sur 10-15 ans, a supplanté quasiment n'importe quelle autre performance. Mais quand on regarde sur du très long terme comme ça et qu'on compare le comparable entre guillemets au S&P, au Nasdaq ou d'autres classes d'actifs, eh bien c'est vrai que le gold n'a pas à rougir, et c'est un actif qui malgré tout est super résilient et est un très bon actif anti-inflation. Et aujourd'hui, dans n'importe quel patrimoine ou portefeuille digne de ce nom, pas mal de gestionnaires vont vous recommander d'en avoir 5 à 10% du portefeuille général. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le problème pour nous qui avons été été biberonné à ce genre de chart ultra haussier ces 5 à 10 dernières années. Est-ce qu'on a envie de rentrer sur un truc comme ça qui nous fait un tout droit vers le ciel? Voilà, ça devient un petit peu compliqué actuellement de payer le gold aux abords des 5 000 $. Ceci étant dit, si dans 2-3 ans il est à 6 000 ou 7 000, on verra peut-être les choses différemment, ou peut-être qu'il sera revenu à 2-3 000, c'est ça le problème. On avait IBKR, donc Interactive Brokers, qui a pump de 6% avec cette information donc du lancement. On en avait déjà parlé précédemment de la possibilité de fund le compte en USDC. Donc en gros, vous pouvez créditer directement vos stablecoins USDC, RLUSD de Ripple ou PayPal PYUSD sur Interactive Brokers. Ça devrait démarrer cette semaine pour les États-Unis. J'ai pas vérifié, en tout cas ils n'ont pas communiqué dessus, si ça allait être disponible en Europe et surtout si ça permettrait de bypass, s'il n'y a pas de conversion en euros pour les Français direct, le fait de ne pas avoir cette conversion et de pas avoir l'imposition. Je pense que dans tous les cas, derrière les impôts, vous diront, puisque vous convertissez vos stablecoins en quelque chose d'autre, ça sera quasi-imposition. Mais voilà, la question est toujours là et c'est vrai que par rapport à ceux qui peuvent déclencher comme ça une imposition, il y a toujours ce questionnement latent de comment on peut faire pour peut-être déposer plus tard des cryptos et emprunter directement des euros, ce qui là ne serait pas soumis à la fameuse imposition puisque ça serait un lombard traditionnel. Avec Julien Flo, on part donc sur le gros sujet du bloc États-Unis-Europe aujourd'hui, avec pour lui Trump qui va trop loin, 10% de tarifs douaniers sur l'UE pour punir notre soutien au Groenland, la goutte de trop et le réveil difficile ce lundi par rapport au marché. Donc tout ça risque selon lui, en conclusion, de faire pchit. La Cour suprême rend son verdict sur les tarifs le 20 janvier demain. Donc on va avoir un peu peut-être une douche froide, un peu un chaud froid sur ce début de semaine, mais il va y avoir pas mal de volatilité. Également l'Europe qui se prépare au choc donc sur le plan de cette guerre commerciale et droits de douane, et c'est pas qu'un simple mot puisque porté par le président français Emmanuel Macron, l'Europe pourrait faire appel à l'instrument anti-coercition. Donc qu'est-ce que c'est? Dans les faits, ce protocole mis en place en 2023 mais jamais utilisé jusqu'à ce jour permettrait au bloc des 450 millions d'Européens de répondre à la menace de l'augmentation des droits de douane, rendant le rapport de force un peu plus symétrique. On parle approximativement de 90 à 100 milliards d'impact sur différents produits, notamment des secteurs sensibles, la big tech, et on l'a vu récemment avec l'IA, l'aéronautique, les produits agricoles US, les marchés publics. On peut détailler un petit peu plus avec notamment également l'automobile, etc. Il est à considérer toutefois que ce bazooka commercial, tel qu'il est qualifié par ses géniteurs, est en réalité plus un scalpel pouvant appuyer là où ça fait mal et avec un peu plus de précision que de juste tirer à l'aveugle, et essentiellement, dans un premier temps, ça pourra servir de levier de négociation avant, le cas échéant, d'être activé si l'administration de Donald Trump restait campée sur ses positions. Donc c'est typiquement ça qui nous attend pour cette semaine, donc du 19 au 26 janvier 2026. Là aussi, bon, qui bluffe, qui va aller jusqu'au bout? C'est vrai que jusqu'ici, Donald Trump aime bien menacer, montrer les dents et se montrer très arrogant sur ce genre de phase pour derrière potentiellement reculer si les marchés ne lui donnaient pas raison. Ceci étant dit, si les marchés se prennent en shoot, ça peut être les premières bonnes opportunités pour nous pour recharger, et notamment du côté des indices, des ETF ou des actions, tout simplement. Vous avez un très bon post et très long d'ailleurs de Grégory Raymond qui est également fait état de tout ce qui se passe finalement derrière la scène de cette confrontation indirecte entre l'Europe et les États-Unis, avec pas mal de sujets, notamment pour le réseau de paiement Visa Mastercard. Il y avait récemment aussi, peu de monde en ont parlé, le fait que Donald Trump voudrait réduire les lignes de crédit vis-à-vis des cartes aux États-Unis, le passer de 20% à 10%, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a le sujet des stablecoins au milieu, avec la France et l'Europe qui sont clairement à la méga traîne par rapport aux États-Unis, et aujourd'hui ce fameux USDC et USDT, bien que USDT on ne puisse pas fondamentalement considérer ça comme états-unien, et enfin l'Europe qui accélère actuellement sur l'euro numérique. Donc aujourd'hui plus que jamais, c'est vrai que l'urgence pointe le bout de son nez. Et est-ce que l'Europe va réussir à se reprendre à tout point de vue, d'un point de vue économique, d'un point de vue, on va dire, de ce qu'elle représente présente vis-à-vis des États-Unis et de l'autre bloc, finalement, de l'autre côté, vis-à-vis de l'Asie et de la Russie. Est-ce qu'également, ça n'est pas un enjeu pur et dur de souveraineté? Il y a également le volet défense et militaire. Donc aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de sujets en simultané et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup ensuite à devoir suivre d'un point de vue macro et géopolitique. Trendspider qui met en avant il y a 4 heures que depuis le début 2026, ce sont les vendeurs de pioches et de pelles du côté du marché crypto qui bénéficient très largement d'un rebond avec Riot à 48%, Iren 48%, bien qu'on en ait certains, notamment comme Iren, qui sont en train de faire plus ou moins un pivot IA. Donc attention, hein, on n'est plus que sur du pur et dur mining. On commence à avoir des prétentions ou des intentions vis-à-vis du minage. On a également Hive, on a Cypher et on a Hut 8. Donc tous progressent de 48 à 25% sur cette première de vingtaine de jours de début janvier. Également le gold qui se rapproche donc des 4 700 $ l'once. Et on embraye donc pour l'analyse technique là-dessus avec plus 153 pour la reine des métaux précieux. Également le silver qui vient chercher les 94 $ l'once. Là, d'un point de vue technique, voilà, on a des volumes de fin de course, on a d'énormes, énormes volumes. Donc, ça serait très, très difficile aujourd'hui hein, de se dire ok, j'achète comme ça un peu en lump sum, que ça soit du côté du gold ou du silver, 5 à 10% du patrimoine et advienne que pourra. Je trouve ça un petit peu dommage. Typiquement, c'est des trucs où il faudra attendre des retracements et des retracements majeurs, massifs, pour pouvoir se permettre de rentrer à bon compte. Ceci étant dit, une personne qui aurait décidé, je ne sais pas moi, sur un patrimoine de, global de rentrer 5% de gold, peut-être se fixer comme ça, de mettre 1%, 1,5% sur les 2-3 prochaines années. Comme ça, ça permet de lisser. Après, comme d'habitude, hein, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas du tout ce que vont donner les marchés demain. On a également les taux longs aux États-Unis qui continuent de remonter. Donc ça fait pas mal de temps qu'on a une contraction au niveau des bonds. Et c'est vrai que le 10 ans, le 5 ans, le 30 ans, le 2 ans, tous sont en positif. Et le 30 ans qui s'approche à nouveau des 5%. Donc là aussi, c'est pas un signal super évocateur que l'économie est en train de se détendre aux États-Unis. Bien au contraire, normalement, on devrait avoir une belle anticipation de la baisse de taux de la Fed. On va avoir Jérôme Powell qui sera remplacé très certainement par quelqu'un qui suivra à la lettre ce que lui dictera l'administration Trump en 2026. Et pour l'instant, les marchés n'en ont que faire. Et pourtant, malgré des taux au niveau des bons au trésor des États-Unis qui sont hauts, le reste des marchés aussi sont hauts. Donc il y en a forcément un parmi tout cela qui est en train de nous faire un peu des carabistouilles et de presser ce citron jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça dont il faut se méfier finalement pour cette année 2026, qui est un peu une année transitoire et qui peut-être révélera bon nombre de cartes et parfois certaines auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. 22,43 trillions pour le M2 Money Stock aux États-Unis, donc il n'y a jamais eu autant de liquidités disponibles aux States et ça a profité très largement, notamment aux actions. Quand on prend la partie asiatique en plus, c'est un peu plus sur la consolidation. Alors on n'est pas sur un truc qui chute pour l'instant, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui progresse frénétiquement. Et on est ici avec donc le M2 plus le Japon plus l'Europe, l'Angleterre sur environ 55,33 trillions. On a également le Russell qui lui a break. Donc ça c'est les low cap américaines pour vous dire comment on s'est fait punir vraiment ces dernières années sur les altcoins. Après une petite consolidation donc fin 2025 sur ce mois de décembre à 2475, on est à 2677. Donc on est en découverte de prix pour l'indice des petites capitalisations aux États-Unis. Et pour clôturer au niveau donc toujours des indices, on passe un petit coup d'œil au DXY qui est toujours bloqué autour de 99 points, donc pas plus pas moins. Et le futur du S&P 500 est à moins 0,87. Le Nasdaq est pour sa part à moins 1,20. Donc on va voir si c'est pas le coup d'envoi du bis repetitas finalement de avril 2025 vis-à-vis des tarifs de Trump. Sauf qu'à ce moment précis, c'était mondial. Là, c'est l'Europe. Donc très certainement qu'on descendra moins. Mais ne serait-ce que se prendre un petit moins 5, moins 10 du côté des indices, ça peut permettre au marché comme ça de digérer tout ce qui s'est déroulé et peut-être de repartir du bon pied. Le plus tôt sera le mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est des situations larvées des fois qui, plus elles durent longtemps sur les marchés, plus lorsque ça déclenche, elles peuvent faire très mal. Donc personnellement, si on m'offre moins 5, moins 10 pour début 2026 et que derrière ça se calme printemps, été et qu'à l'automne, finalement, on a apaisé un petit peu toutes les tensions, ça irait très bien. Mais je pense pas que ça soit aussi simple que ça. Du côté crypto pur et dur, on a la stablecoin dominance qui continue de coller à la moyenne mobile 200 et à ce ratio entre 0,08 et 0,09. Le crypto total redescend à 3100. On était la semaine dernière quasi au contact de la moyenne mobile 50, proche des 3300. Pour l'instant, ça ne passe pas. Et finalement, c'est ce que Bitcoin était aussi venu chercher. Sauf que lui, il n'a même pas le jus de venir les toucher, les 100 000. Donc, on s'est fait repousser approximativement à 97-98. Pour l'instant, ça ne passe pas. Les oscillateurs sont quand même en fatigue de vendeur. Donc, on va voir ce que ça va donner. On a une petite congestion ici. Soit on arrive à toucher les 100 000, à passer durablement au-dessus, 108, etc. Et on repart en train d'haussière. Ce qui aujourd'hui, comme le démontrait Calcul à l'appui et IA à l'appui, Benjamin Cohen de Into the Cryptoverse, on était plutôt à 15% en faveur d'un bull run continu en 2026 et d'aller contre les statistiques historiques quelque part. Et ensuite, on avait un 50% ou 40%, une digestion un peu médiane qui derrière amènerait à une petite jambe baissière, mais pas si basse, quelque part entre 70 et 75. La troisième option qui venait clôturer donc ce chapitre à 30-35%, une continuation baissière telle qu'on l'a connue par le passé, à chaque bear market, entre guillemets, sur le marché crypto et qui nous conduirait quelque part autour de cette moyenne mobile 200 qui aujourd'hui se trouve autour de 58 000 $. On a un gros support juste en dessous également à 50 000. Et la zone de peur extrême qui arriverait si MicroStrategy se mettait à vendre des bitcoins entre 40 000 et 45 000 $. Donc aujourd'hui, tout ça sont des objectifs qui sont largement de l'ordre du possible quand on voit ce qui s'est déroulé précédemment sur bitcoin. La question c'est, est-ce que depuis l'arrivée des institutionnels et des ETF, les cartes ont suffisamment été redistribuées et rebattues pour ne plus avoir justement à la fois le cycle de 4 ans et à la fois des drawdowns aussi importants. La seconde crypto-monnaie du marché continue de nous faire une consolidation sous cette zone dure des 3003-3004. La moyenne mobile 20 arrive par le nord, 3560, ça fait quand même beaucoup de barrages pour l'instant. Pareil, les oscillateurs sont en train de se poser, le RSI quasiment sur support, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Comme on l'a vu à l'instant, donc on a Riot qui arrive sur une zone dure autour de 20 $, donc attention. Iron également, plus 12%. Lui est beaucoup plus soutenu. On voit que c'est pas un actif, hein, Iron Limited, qui s'est laissé crever au travers du temps. Depuis décembre 2022, on est passé de 1 $ à autour de 76 $. Donc, comme d'habitude, c'est assez difficile, hein, de se positionner sur ça. Et peut-être on ira chercher, quitte à chercher justement du risque, ben plutôt celles qui ont corrigé énormément en amont, de type MicroStrategy, tout en ayant bien en tête que si oui, MicroStrategy est en train de consolider et potentiellement d'essayer de nous faire un bottom autour de la moyenne mobile 200 et les oscillateurs sont venus très bas, si Bitcoin venait à nous faire une jambe supplémentaire baissière en 2026, voilà, c'est pas le moment en fait sur toutes ces sociétés, que ça soit les minières, que ça soit les Coinbase, les MicroStrategy, etc., de rentrer en une seule fois et d'essayer de jouer au héros tout simplement. On voit Coinbase également que dès qu'elle essaie de passer la tête un peu à 260, ça se fait repousser, la bougie là est complètement dégueulasse. Donc je pense qu'on n'est toujours pas au bout de nos peines entre guillemets pour le marché crypto, mais on a déjà traversé voilà 50-60-70% de ce bear market, d'autant plus que les altcoins eux l'ont traversé dès 2025. Côté action US, après un très beau rebond et une clôture vendredi dernier à plus 9%, Novo Nordisk va réouvrir dans le rouge. Donc attention, zone dure ici entre les 58 à 62 $. Une belle configuration malgré tout et une tentative de retournement avec des volumes qui sont en train d'arriver. D'ailleurs, au rayon des vendeurs de pioches et de pelles, on a MSCI, donc Onize, qui édite par exemple le fameux MSCI World ou d'autres choses. Là aussi, il y a un mois, on était revenu travailler autour de la moyenne mobile 200, proche des 530 $. On est de retour à 600 et on a un ATH aujourd'hui pour MSCI autour de 678. Donc ça, c'est pas un truc ultra volatile, mais c'est un truc stable au long terme qu'on peut recharger un peu comme un Air Liquide pour la France ou d'autres trucs dans ce style qui apportent un bon dividende et qui au long terme, vu qu'ils sont pas pour Air Liquide hein, mais pour des trucs comme MSCI ou Amundi ou l'Euronext ou enfin voilà, il y en a bon nombre d'autres, ou l'ICE, on a la possibilité en effet d'avoir du capital, des parts dans les sociétés qui elles-mêmes soit produisent les produits boursiers ou détiennent elles-mêmes les bourses. Donc c'est quand même assez remarquable. Côté action française, on a Dassault Aviation donc qui nous fait une belle poussée depuis 2 semaines. On est passé de 277 € à 316. On a un ATH à venir dégoupiller très proche à 331. Est-ce qu'il va trouver la force. En tout cas, pour l'aviation et la défense, c'est suivi également de Airbus qui est venu nous chercher donc autour de 221 euros. Pareil, là, la zone à payer pour Airbus, elle était plutôt deux mois en arrière à 182. Donc, on attendra la fin de ce mouvement pour potentiellement pouvoir se repositionner, en tout cas pour ceux qui veulent soutenir comme ça le secteur de l'aérien, voire de la défense française. Du côté des altcoins, on continue d'avoir de la volatilité sur les Dash, les XMR, les BNB qui, lui, pour l'instant, continue une très très belle consolidation face à BTC. D'ailleurs, c'est presque un petit peu bizarre depuis 2-3 mois. On latéralise vraiment autour de cette zone de 10 000 Satoshi approximativement et de la moyenne mobile 200. Donc, quelque part, c'est très bien hein, d'avoir un actif qui traverse à ce point bien son bear market, entre guillemets. Mais d'un autre côté, on peut se demander quelles petites manigances sont mises en place du côté de Binance pour à ce point tenir un actif comme ça en lévitation. Après, ils ont les reins solides, ils ont les fonds pour. Donc, s'ils ont envie de défendre leur BNB, hein, why not ? Ça ressemblerait indirectement, quelque part, au rachat d'actions que font les grandes sociétés, et notamment américaines. Et côté Asie, comme on l'avait vu la dernière fois, bien que, comme je vous avais dit, pour Alibaba précédemment, je ne suis pas rentré sur Nintendo parce que je manque de profondeur et de granularité par rapport à ce marché asiatique en particulier. Donc, on a Nintendo qui est au contact de la moyenne mobile 100 est en train de nous faire un truc plutôt sympa. Le best-of aurait été de le revoir un petit peu plus bas ici. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière émission. Donc, on a peut-être de temps en temps aussi des opportunités comme ça à aller chasser, y compris du côté du marché asiatique. Mais voilà, j'essaie petit à petit de me rencarder avant de vous en parler un peu plus dans le détail. Ou même, c'est le but de cette nouvelle chaîne de FinTales pour les prochaines années, de faire venir par secteur un expert qui viendra vous en parler bien mieux que moi ou bien mieux que nous précédemment. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve en milieu de semaine, maximum fin de semaine, pour débriefer cette semaine qui, de toute évidence, risque d'être placée sous le signe de la confrontation et de la volatilité. Continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil, et s'il y a des opportunités assez extraordinaires pour être notées, nous serons les premiers à vous en parler. Très bon lundi, très bon début de semaine et courage, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.